Isabelle Morizet.
Michel Sardou, que de péripéties avec ce théâtre de la Porte Saint-Martin. Je ne chante plus, je rechanterai peut-être. En attendant, quand vous l'avez acheté, ce théâtre, il y a 3 ans, vous avez déclaré « Je vais bouffer du fric, c'est sûr, mais je m'en fous car je m'achète de beaux souvenirs ». On en est où pour l'instant avec les souvenirs?
Alors on a effectivement
les beaux souvenirs.
On a de très beaux fantômes dans ce théâtre. On a les meilleurs comédiens du monde. On a des créations très fortes. Il a compté dans l'histoire de Paris, ce théâtre, puisque il a été construit en très peu de temps. Il a été voulu par Marie-Antoinette.
Ouais.
Et Marie-Antoinette y a joué elle-même, masqué, ce qui n'était pas très prudent.
Marie-Antoinette a joué au théâtre de la Porte Saint-Martin.
C'était un opéra au départ.
Ouais. Oui, puisqu'il y a une fausse d'orchestre,
ce qui est assez rare. Elle chantait le Figaro de Le Barbier de Séville de Beaumarchais. Et c'était pas très prudent en 1781. Hein. C'est pas ce qu'il fallait faire. Bref, il y a eu beaucoup d'histoires, beaucoup d'acteurs. L'arrière-grand-père de ma femme a été directeur de ce théâtre. Et en fait, il est rentré dans ce théâtre, il marchait sur les grands boulevards. Et à l'époque, on avait besoin de figurants, il y avait beaucoup de figurants dans les pièces. Et il y avait un type à la porte du théâtre qui disait, il voit arriver ce jeune homme était beau, un beau jeune homme de 20 ans, grand, comme ça. Vous voulez faire du théâtre, vous voulez gagner 5 sous, 6 francs, vous jouez une semaine là. Hop, il l'a attrapé, il l'a fait rentrer, et 20 ans plus tard, il était directeur du théâtre. C'est Porel, il s'appelait Porel. Réjeanne, l'arrière-grand-mère de ma femme, y a joué. Et ma mère y a joué, mon père y a pas joué, je ne crois pas.
Alors tout ça, ça fait un ruban de souvenirs phénoménal. Mais depuis que vous en êtes le propriétaire, c'est-à-dire depuis juin 2001, les souvenirs que vous êtes forgés, vous, Michel Sardou.
Vous voulez que je vous raconte les plaisirs et le bonheur d'être directeur de théâtre?
C'est un sacerdoce,
c'est une punition divine, c'est une horreur.
Vous en parlez parfois avec Jean-Claude Brialy qui dirige
Oui, mais il m'avait prévenu, mais Belmondo m'a prévenu. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas foutre dans ce merdier, mon pauvre vieux? C'est un merdier, c'est sans fin, parce que malheureusement, il se passe un phénomène assez troublant, typiquement français d'ailleurs, le public du théâtre ne se renouvelle pas. Les gens qui aimaient le théâtre du temps de nos parents, les théâtres fonctionnaient beaucoup, on jouait une pièce 2, 3, 4 ans. Aujourd'hui, quand vous faites 150 représentations, on monte au rideau.
Tout le monde est content.
Oui, on monte au rideau, c'est une exception. Bon. Et ce public se réduit. Par contre, le nombre de théâtres, non, sur le même. Les coûts sont beaucoup plus élevés, évidemment. Donc on ne peut plus jouer, par exemple, là j'ai joué une pièce, la dernière pièce que j'ai interprétée moi-même, c'était de Félicien Marceau, il y a 17 personnages, il fallait que je joue pour le plaisir, hein, c'est clair. Donc si vous voulez, c'est un gouffre, c'est une maîtresse terriblement gourmande,
voilà,
terriblement gourmande, qui ne vous donne pas toujours les plaisirs que vous espérez.
Qu'est-ce qui est le plus difficile, justement, pour faire vivre un théâtre?
C'est de trouver les pièces, c'est d'intéresser le public. Mais est-ce que le public... Moi, je suis un peu désarçonné aujourd'hui. C'est-à-dire que, vous voyez, nous avons choisi une pièce, là, qui a été interprétée par Pierre Mondy et Catherine Rich, d'une façon magistrale, une comédie merveilleuse, très drôle, qui s'appelle Le Sénateur Fox, qui est une pièce italienne à l'origine, mais vraiment, vraiment marrante. On passait une soirée formidable. Je dis, là, je tiens quelque chose. Bon, les comédiens étaient parfaits, tous dedans. La mise en scène de Tardieu était très bonne. Enfin, on avait tous les ingrédients.
Qu'est-ce qui manquait?
Et ça n'a pas pris, je ne sais pas. J'ai pas compris. Je ne sais plus aujourd'hui quoi monter. C'est comme ça. Donc, on n'a plus de règles. Et je vous dis, je suis un peu, je suis pas le seul, comme ça, je me dis, mais qu'est-ce qui va les faire bouger, les faire venir? Vous pouvez mettre une star, vous pouvez mettre 100 stars, vous pouvez mettre... je crois qu'ils ne s'intéressent plus beaucoup au théâtre. Il y a un désintérêt du théâtre. J'espère que ce n'est que provisoire.
C'est un constat terriblement amer que vous faites là.
Non, c'est pas amer. Vous savez, le théâtre est mort et ressuscité des milliers de fois. Hein. C'est pas la première fois que ça arrive.
Alors, que faudrait-il pour le ressusciter cette fois-ci?
Je ne sais pas, mais on s'y met tous. On cherche tous. Tous les directeurs de théâtre aujourd'hui cherchent la pièce, le petit truc. Alors, on a toujours une bonne surprise tous les ans. Il y a toujours quelque chose, et en général, une petite chose qu'on n'attendait pas du tout, qui fonctionne. Les lourdes productions, on les oublie, parce qu'on n'a plus les moyens de les monter. Donc, il faut trouver, il faut chercher, il faut lire.
Mais l'art vivant est tué par le cinéma et la télévision?
Je ne sais pas. Je peux pas, j'espère que non. Mais on va faire en sorte que les gens s'y intéressent encore un peu plus.
Peu avant de tomber malade, François Perrier, votre beau-père, qui était un immense acteur de théâtre, était venu vous voir jouer dans Comédie Privée. Il paraît qu'il vous avait glissé à l'oreille, tu rentres enfin dans la famille.
Il a dit ça à ma femme. Moi, il m'a dit, t'as fait ton boulot. Ça, pour lui, c'était le seul, c'était le plus grand des compliments qu'on pouvait faire à un comédien, c'est quand il avait fait son boulot. Il disait pas, t'as du talent, ou t'as ceci, t'as cela, parce qu'il était impressionné par personne. Et il avait bien raison, puisque c'était pour moi un des plus grands acteurs de théâtre. Je le mets à côté de Paul Meurice, qui était son ennemi intime. Et pour moi, c'était les deux plus grands. Et avec un penchant particulier pour François, parce que il avait une force des rôles tellement forts en texte, tellement lourds à porter en texte, que c'était un défi à chaque fois. Rappelez-vous, Amadeus, je sais pas si vous l'avez vu, avec Polanski, c'était quelque chose de terrible à jouer. C'était une montagne. Le diable et le bon Dieu, bon. Et il me dit, à moi, t'as fait ton boulot. Mais c'est quand ma femme a été lui annoncer qu'elle allait se marier avec moi, qui lui a dit, là, enfin, tu rentres dans la famille. Parce que elle n'était pas du tout dans le monde du spectacle. Enfin, elle était sortie du monde du spectacle.
Votre père, à vous, Michel Sardou, aurait pu vous dire, enfin, tu rentres dans la famille.
Ah, oui, mais lui, c'est ce
qu'il attendait. Il n'attendait que ça, que vous.
Lui, c'est ce qu'il voulait.
Sur scène de cette façon.
Il me disait, la chanson, c'est provisoire. Après, tu vas faire un vrai métier. Mais c'est ce que m'a dit Meurice, c'est ce que m'a dit Lino, ce que m'a dit parce que m'ont dit plein d'amis de la famille à l'époque. Pour eux, le vrai métier, c'est la comédie. La chanson, c'est marrant. Mais ils aimaient tous la chanson. D'ailleurs, j'ai une anecdote assez amusante. Je sais pas si j'ai le temps de vous la raconter.
Oh, mais si.
J'étais à un dîner. Tenez-vous bien, il y avait Charles Vanel, il y avait Bernard Blier, qui écrivait en cachette des chansons. Il y avait Gabin, Lino, moi, et je ne sais plus qui. Et Charles Vanel était en train de dire à Gabin, mais tu te rappelles la petite blonde qui chantait au Casino de Paris, qui était mienne comme tout, là, qui chantait, tu te rappelles pas? Et Gabin fait non. Il dit à Lino, tu te rappelles pas toi non plus? Mais ça, t'es blondine, t'es jolie, t'es mienne comme tout le monde voulait la... Bref. Et il se rend compte que personne ne se souvenait de cette fille. Puis il se dit, mais qu'est-ce que je fous là, moi? C'est con de parler avec des gosses. Ils n'ont pas de souvenirs. Parce que pour lui, il avait déjà 95 ans, les autres en avaient 70, quoi. Donc c'était...
Alors, comédien, chanteur, 2004, c'est votre retour vraiment à la chanson. Vous êtes plus que jamais chanteur d'ailleurs, puisque le nouvel album vient de sortir avec pour titre Du plaisir. Et puis un marathon, Alain Lapierre vous attend du 6 octobre au 13 novembre. Vous avez peur du temps qui s'accélère, de vivre moins intensément? Il vous faut tout avaler en même temps?
Je fais l'Olympia, je fais un petit peu de tournée, après je reviens au Palais des Sports, après je repars en tournée, et voilà. Donc je vais avoir une année très remplie. Mais ça me manquait. Donc je suis plutôt content de repartir sur les routes, content de chanter, d'abord parce que les gens qui m'entourent ont changé. Je suis avec d'autres personnes qui ont un moral d'acier, qui sont très agréables à travailler. Donc j'ai
un regard neuf sur vous,
oui,
une oreille neuve aussi,
bien sûr,
pour vous conseiller.
Bien sûr. Ouais. Et ça, c'est important. Et donc là, je suis plutôt content de repartir.
Mais votre vie entière a changé. Justement, j'aimerais savoir, Michel Sardou, qu'est-ce qu'une femme amoureuse comme Anne-Marie Perrier peut transformer chez un homme de 52 ans quand elle l'épouse, et surtout chez un homme au caractère si trempé, avec derrière lui un parcours si particulier? Est-ce qu'elle vous a transformé, votre femme?
Vous connaissez ma femme?
Vous Je l'ai croisée, simplement.
Vous la Eh ben voilà, c'est une femme assez... exceptionnelle, qui fait en sorte, c'est-à-dire qu'elle a vécu avec son père longtemps et elle connaît nos angoisses, elle connaît les angoisses des artistes. Donc elle fait en sorte, c'est pour ça que c'est difficile de vivre avec un artiste d'ailleurs, parce qu'il faut faire en sorte de lui épargner tout ce qui est autre que ce qu'il a à faire le soir. Que ce soit jouer une pièce ou venir faire un tour de chant, c'est pareil, hein. Donc, elle écarte tous les emmerdements quotidiens, les contrariétés possibles, vous savez, tout ce qui fait que la vie, les petits emmerdes de la vie. Bon,
c'est le boulot d'un super majordome.
Non, pas forcément.
J'imagine qu'elle est infiniment plus que ça.
Bien sûr qu'elle est plus que ça. Mais elle sait faire ça. Et il n'y en a pas beaucoup qui savent le faire. Ensuite, elle a un jugement précis et très juste. Ce qui fait que quand on lui montre quelque chose ou quand on lui fait écouter quelque chose, elle a un jugement intelligent, ou alors elle ne dit rien si elle ne sait pas se prononcer, ou si ça c'est pas son truc. Par contre, mais quand elle dit quelque chose, elle a raison. Et puis là-dessus, ajouter qu'elle est belle, qu'elle est charmante, qu'elle est adorable, et puis vous comprendrez qu'elle a pu changer ma vie. Oui,
Et que vous êtes l'autre amoureux. Voilà. Il y a 28 ans déjà, vous aviez demandé sa main. Pourquoi ça n'avait pas marché
pas
à l'époque?
Tout, je vous en prie, mais pas du tout.
Mais alors, mais vous incroyable, avez des mensonges, mais que racontent ces journalistes
Mon service secret ne sert à rien. Ne sert à rien. J'étais dans une boîte chez Régine, à Deauville, pour être précis. Il était très tard, et je vois une belle brune magnifique traverser de la salle, venir s'asseoir à côté de moi, se présenter, me dire qui elle est, et me draguer carrément. Alors, c'est pas la même histoire.
Mais ça, c'était donc il y a 28 ans.
Ouais. C'est tout, excusez-moi du peu.
Alors c'est bien de remettre les choses dans l'ordre.
Il n'y a aucune prétention, mais si je vous dis la vérité, vous voyez la vérité. C'est elle qui m'a dragué. Moi, je ne drague pas, je ne sais pas.
Quelle est l'erreur fatale que vous ne commettrez jamais plus pour préserver cette union?
Je ne trahirai pas. Je ne mentirai pas. Enfin, je ne lui mentirai pas, naturellement. Je mentirai à tout le monde, évidemment, ça c'est mon métier. Mais si je lui promets quelque chose, je le tiens. Je le tiendrai. Et je crois qu'il y avait quelque chose qui transformait ma vie, qui transformait ma personnalité, c'est que je buvais beaucoup. Et que l'alcool, évidemment, nous donne une personnalité autre, où au lieu de nous améliorer, plutôt augmente les défauts qu'on a. D'une manière générale, c'est un accélérateur à conneries et non pas à intelligence. Donc ça, j'ai renoncé complètement. Pas un petit verre de vin de temps en temps, parce que j'aime beaucoup mon truc, mais j'ai picolé, sortir dans les boîtes, finir à 6h du matin, rentrer un peu défoncé, ça c'est fini ça. Parce que ça, ça crée un personnage qui n'existe pas, ça donne de l'agressivité aussi. Enfin moi ça m'en donnait. Avec 3 bouteilles de scotch dans la tête, après autour d'une heure du matin, on ne peut pas être le même homme, et pour une femme c'est insupportable. C'est insupportable.
Aujourd'hui Michel Sardou, qu'est-ce qui est absolument nécessaire à votre bonheur et qu'est-ce qui est devenu complètement accessoire?
Ma femme est nécessaire à mon bonheur, le reste je m'en fous.
Bien évidemment. Et le reste, vous vous en foutez?
Sauf mon métier, évidemment. Parce que si vous me priviez de mon métier, là, je serais peut-être sans doute très malheureux. Si je ne pouvais plus connaître les angoisses d'une sortie de disque, par exemple, connaître les angoisses de préparer un spectacle, le bonheur aussi de le réussir, le désespoir de le rater, parce qu'on a toujours l'impression qu'on est seul au monde, que si vous ratez quelque chose, tout le monde le sait, ou si vous le réussissez, tout le monde en parle. Ça me manquerait beaucoup.
Par exemple, est-ce que vous êtes chef de tribu? Vous qui, paraît-il, avez souffert du fait que votre père, à l'époque, ne communique pas trop avec vous. Est-ce que vous parlez beaucoup à vos enfants?
Non. Pas vraiment.
Vous n'avez pas été, par exemple, le premier à lire le livre de Romain, Pardonnez nos enfances?
D'ailleurs, il ne l'a pas donné en premier. Et pour être franc, il l'a donné à sa mère en premier. Et moi, je l'ai lu, j'ai lu la première maquette, quoi. Oui. Que j'ai trouvé très bien. Enfin, je veux pas dire que mon fils était, je peux commencer à faire des compliments à mon fils, c'est une tête de l'art. Mais, il a du talent.
Mais vous avez envie d'accélérer quand même le processus de communication?
Avec mon fils?
Oui. Ou
impossible.
Pas.
On est complètement l'opposé. On peut se mettre à une table, on est exactement les mêmes, hein. Il a le même caractère que moi, seulement on n'a pas les mêmes opinions. Alors qu'on pense exactement la même chose, seulement on le formule autrement. Donc chaque repas finit par s'engueuler après chaque repas. Donc c'est normal.
Alors lorsqu'on en reparlera dans quelques années, je suis certaine que tout ça aura changé. On retrouve tout de suite Michel Sardou.